Merci Anne Fauquemberg, bonsoir à tous. Ce soir, un Sur la route spécial dans le cadre du week-end Poésie sur France Culture, une émission en partenariat avec l'Humanité. Sur la route, Julie Gacon avec Yvon Croisier et Sophie Bobert.
Je suis un petit épagneul papillon, à poils longs, noirs et fauves. Je suis très craintif, je ne connais pas le quartier. Dit sur la petite annonce du Super U, le petit épagneul papillon. Je ne connais pas le quartier comme moi qui viens d'arriver. Si vous m'apercevez ou me recueillez, merci d'appeler au tac-tac-tac-tac le toc-toc-toc-toc.
Si vous avez aperçu un jour le poète Yvon Lemaine à Maurepas, ce quartier populaire de Rennes, et a priori dénué de toute poésie, c'est que vous l'avez vu en train d'écrire. Ou peut-être était-il en train d'écouter, tel un épagneul breton, l'oreille dressée. Écouter la vie qui nourrit ses poèmes, le chant que font les hommes, la banalité du quotidien, le bruit d'une cité HLM. Le bruit que chacun traîne derrière lui comme la queue d'une comète traîne derrière la comète, dit-il.
Heureusement, les oiseaux, le silence de leur vol, la lumière de leurs plumes noires, blanches, plus noires que blanches, me rappellent la maison, coupent le bruit de je ne sais quoi, une mixeuse, une tondeuse, une scie électrique, mais pas celui de cet enfant qui pleurait cette nuit et m'a réveillé.
Sur la route d'une cité en prose, à Maurepas, à Rennes.
Heureusement, les arbres hauts et verts, le silence de leurs feuilles, sauf la plainte de l'un d'eux que l'on scie au premier jour de mon séjour ici.
Bonjour Yvon Lemaine.
Bonjour.
J'espère que vous êtes un Yvon qui répond quand on l'interpelle.
En général.
Alors, votre premier jour ici à Maurepas, c'était quand? Et comment est-ce que vous êtes arrivé jusque-là? Parce qu'a priori, on n'arrive pas ici par hasard.
Alors, je suis arrivé jusqu'ici grâce à une amie qui s'appelle Chantal Parent, qui travaille ici depuis 40 ans et qui a toujours une passion de son métier. Et ça m'a intrigué. Ensuite, moi, j'étais étudiant à Rennes, ici, dans les années 70, et je connaissais un petit peu quand même le quartier. Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose ici qui est forcément, il y a ici quelque chose de bien, sinon c'est strictement invivable. C'est ça qui m'a intéressé.
C'est un environnement qui a été le vôtre pendant 3 mois, à l'occasion d'une résidence que vous avez donc passée l'année dernière, ici à Maurepas. Il y a de grandes tours autour de nous, mais on n'est pas dans un espace bétonné.
Pas du tout. Non, pas du tout. Sur le plan visuel, c'est... Alors, en plus, les grandes tours, quand on est au sommet des grandes tours, c'est très beau. Hein. On a la tête dans les étoiles, quoi. Parce que je dis dans le poème, à un moment donné, je dis d'un garçon qui arrive là, qui vit là, qui dit qu'il est étonné d'être si haut dans le ciel, lui qui avait vécu si bas sur la terre. C'est-à-dire, c'était un fils d'ouvrier agricole, quoi. Comme moi je suis fils de cantonnier. Donc, non, c'est le paysage urbain n'est pas du tout... c'est pas ce qu'on imagine quand on parle d'une cité... je ne sais pas, aller à Marseille dans les quartiers nord, mais c'est un peu l'image que j'ai aussi. C'est-à-dire, j'ai forcément des mauvaises images. Les gens aiment être ici aussi, quand même. Hein, c'est leur vie, de toute façon. Mais quand on a créé le quartier, j'ai rencontré l'architecte qui a créé le quartier, qui s'appelle Monsieur Carré. Et qu'on lui a demandé de faire avec le minimum d'argent, le maximum d'appartements. Et donc, à l'époque, les gens, c'était les ouvriers de Citroën qui venaient d'arriver, des anciens paysans, donc tout le monde vivait un peu de la même façon. Hein, les ouvriers allaient au boulot, les enfants à l'école, les soirs ils rentraient, et tout le monde dormait à peu près à la même heure. Donc, le problème du bruit, à ce moment-là, parce que c'est ce dont je parle beaucoup dans le livre, mais il n'existait pas, parce que c'était les mêmes rythmes, c'était la même musique, disons, pour tous. Et le quartier a été créé au moment des Grandes Espérances. des 30 Glorieuses, quoi. Voilà. Ça a démarré en 59. J'ai rencontré une dame que j'appelle la première dame du quartier, qui elle disait qu'elle a quitté un petit appart de Rennes, enfin un minable, un escalier épuisant, de l'ombre pour venir ici, des grandes fenêtres, du chauffage, des voisins, des gosses qui marchent sur l'herbe. C'était très beau, quoi. Mais est construit alors en béton caverneux. Alors j'avais dit à l'architecte, je dis mais vous n'avez pas eu peur de rien que le nom caverneux aurait dû vous prévenir que ça allait poser problème un jour, quoi. Hein. Voilà.
Donc ce quartier, vous le racontez dans votre poème Les Rumeurs de Babel, vous le racontez à travers ses habitants. Ce sont eux qui donnent de la chair, évidemment, à votre récit. Il a fallu gagner leur confiance. Il a fallu aller frapper aux portes.
Alors j'ai suivi un peu Chantal, qui est un peu la mère aubergiste du quartier, si je puis dire, hein. C'est le fil rouge, c'est le fil d'Ariane, quoi. Et mais aussi, tout bêtement, moi-même, je sais pas comment faire. Alors je passe par la petite annonce, le petit chien, je suis un peu comme lui, je dis, est-ce que vous voulez bien m'adopter, quoi. Et je fais ce que tout le monde fait, je fais mes courses, je m'arrête, j'achète le journal, de quoi manger le soir, quoi. Mais c'est pas si simple que ça, disons, au début. Hier, en faisant mes courses à pied, je me suis senti comme un étranger dans le quartier. Pas seulement parce que j'habite au bord d'un bois, dans le silence, jusqu'à entendre les oiseaux se frôler. Pas seulement parce que je ne suis que de passage ici, comme dans un pays étranger. Pas seulement parce que je le sais, mais je le sens à cause de moi, à cause d'eux qui me croisent et vivent entre eux. La vieille dame, le grand noir, l'enfant vert, les jeunes filles presque jolies, manquant seulement d'un peu de joie. Celle qui déborde de son corps et dont les rayures or de son pull au vert sont à l'envers sur son corps, eux et moi, à Maurepa, étrangers ou étonnés.
Yvon Lemaine, on va aller avec vous à la maison de retraite rencontrer Madame Glorot, l'une des trois vieilles dames à la robe bleue et aux cheveux dorés qui sont dans votre poème « Les rumeurs de Babel ». Ça fait combien de temps que vous êtes ici ?
4 ans.
Et vous ne viviez pas à Maurepa avant ?
Si, j'ai un appartement d'ailleurs que j'ai toujours, pas très loin d'ici, square de la Rouerie. Et c'est pour ça que je suis venue dans cette maison de retraite. Mais mes amis ne sont pas là. J'ai si peu d'amis qui me restent, parce qu'à mon âge, c'est l'hécatombe, bien sûr.
Vous avez quel âge ? Je peux vous le demander ?
94. Alors, apparemment, je suis en très bonne santé. Apparemment, on me dit, vous avez de la chance, vous marchez. Oui, je sais. Mais on ne connaît pas les misères cachées.
Est-ce que vous y sentez bien à Maurepa ? Est-ce que vous trouvez qu'on y est bien ? Est-ce que... Non ? Pas vous ?
Oh, ben non, c'est un quartier, sûrement. C'est un quartier défavorisé, hein, c'est sûr.
Et qu'est-ce que ça change dans la vie de tous les jours ?
On vit de plus en plus sa solitude, mais on s'y fait. Mais par exemple, quand j'ai une femme d'une ménagère, là, quand elle vient, là, j'apprends facilement, elle se confie à moi, elle me raconte leur vie, je les écoute. Et puis... Mais moi, je raconte peu de choses.
Parce qu'on ne vous pose pas de questions ?
Oui, et puis, oui, c'est ça. On ne s'intéresse pas forcément à ma vie. Il y a beaucoup de silence ici, parce que les gens ne communiquent pas. Donc, moi, je sais que je n'ai de contact avec personne. Personne.
Donc, finalement, à Maurepa, on peut être, bien qu'entouré de beaucoup de voisins, on est dans une cité avec des tours, des barres d'immeubles, on peut être très seul.
Très seul. Très seul. Très seul.
Et vous qui dites que vous allez beaucoup à l'extérieur, que vous avez cette chance d'aller à l'extérieur, ce sont vos mots. Quand vous revenez à l'intérieur, comment vous décririez cet endroit ? Comment vous le qualifiez ?
J'ai un cahier sur lequel j'écris tous les jours. Pas les choses banales, mais les choses bien sûr, qui sortent de l'ordinaire. Et puis je vis un petit peu avec ça, le reste de ma journée. Puis le lendemain, ben, c'est autre chose. Et puis voilà. Mais je passe des journées dans ma chambre quand même, solitaire. Et puis je lis beaucoup. Mais je lis la nuit surtout. Je lis jusqu'à minuit en principe. Et puis quand je me réveille à 5 heures le matin, ben, je reprends le bouquin. Et puis là, je dévorerai Yvon Le Maine. Voilà.
On parlait du silence tout à l'heure. C'était sans compter que nous sommes en Bretagne et donc pas à l'abri d'une énorme averse. Vous avez vu, c'est la tempête dehors.
Ah oui. Oh ben pour que les rideaux bougent, en effet. Ah. Eh ben, il y a longtemps qu'on n'en a pas eu comme ça. Hein. Vous n'avez pas de chance.
Est-ce qu'une tempête comme celle-là, ça peut être quelque chose que vous écrivez dans votre carnet ce soir?
Oh non, j'appelle pas ça la tempête.
Est-ce qu'il
non,
vous a...
votre visite sera notée dans mon carnet, parce que ça, c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé.
Est-ce qu'il vous arrive d'écrire des choses que vous voyez par la fenêtre, la vie à Maurepas?
Les nuages le matin, quand je me réveille. Le soir, la lune, parce que j'ai la chance d'être au troisième, d'avoir une vue assez étendue sur l'horizon. Et j'aime bien la lune le soir.
Et les gens, vous les regardez? Les gens qui passent?
Ah, j'ai personne devant moi, j'ai le chantier du métro. Alors, c'est autre chose, j'avais un beau petit parc avant, avec des petits oiseaux qui venaient sur ma fenêtre, je leur donne à manger aux petits moineaux. Mais maintenant, c'est le chantier du métro. Et le chantier de l'immeuble, qui font beaucoup de bruit. En ce moment, c'est le summum du bruit dans la résidence. Mais ça passera.
Madame Glorot, comment est-ce que vous avez rencontré Yvon Le Maine? Comment ça s'est passé?
Alors, Yvon Le Maine, c'était un nom que je ne connaissais pas. Hélène, l'animatrice, l'a donc convoqué à la maison, à la résidence. Dès la première rencontre, j'ai accroché, je peux dire, j'ai accroché. Alors moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il avait un style libre et que nous, personnes âgées, nous sommes habitués à Lamartine, à Victor Hugo, des vers tout à fait différents. Et au début, même, ça m'ennuyait que ça s'appelait des vers. Mais par contre, il a un style très imagé, un style inattendu aussi, parce qu'il juxtapose des mots concrets et abstraits. Par exemple, il parle de la banlieue de la vie. Et d'ailleurs, il nous avait fait un petit poème pour nous spécialement. Il parlait des Trois Glorieuses. Les Trois Glorieuses, qui étaient Madame Angers, Madame Cavalier et moi-même. Alors, attendons le prochain, qui aussi sera sans doute formidable.
Le prochain, c'est les rumeurs de Babel. Et j'ai intégré donc le poème que je vous ai donné dedans, quoi.
Ah oui, oh. Vous avez dû décrire justement le bruit.
Oui.
Le bruit avec la vie de ces habitants-là. Parce qu'ici, il faut dire que c'est assez cosmopolite. Hein.
Oui, mais moi, je trouve ça bien.
27, 28
54.
57
54 nationalités.
Ah oui, tant que ça.
Oui.
Oui, c'est pour dire, c'est pour ça que le quartier, naturellement, ça. Il y a du pour et du contre. Hein.
Moi, je trouve ça bien.
Vous trouvez ça bien?
Oui.
Mais il y a beaucoup de délinquance. Hein.
Il n'y en a pas plus. La délinquance, compte tenu, parce que les gens vivent difficilement quand même. C'est pas facile. Leur vie, ils n'ont pas de travail. Hein. Ils viennent de.
Ah, mais oui.
Ils viennent d'histoires terribles.
Oui. Hein,
ils ont quitté des pays en guerre, etc. Donc, c'est pas facile. Alors, c'est pour ça que je suis indulgent, disons. Hein.
Ah, mais moi aussi, hein, je leur donne des excuses. Mais sur le journal Ouest-France aujourd'hui, hein, il y en a comme ça.
Oui, mais je dis
vous
dans.
Lu,
oui,
hein.
Non, j'ai pas lu aujourd'hui, mais j'ai lu de temps en temps. Mais le problème dans les journaux, quel que soit le journal, on parle jamais de ce qui va bien. On parle souvent de ce qui va pas bien. Et justement, dans la poésie, si la poésie a un intérêt, peut-être, dans ce que j'ai pu écrire dans le livre, c'est de dire aussi. Non pas ce qui va bien, mais parce que c'est pas un livre fleur bleue, mais de ce qui va, enfin, comment les gens font comme malgré tout pour vivre. Quoi. D'où vient ce petit garçon qui hurlait hier dans la classe et qui aujourd'hui se cherche des amis dans la cour de récréation, de création? Il vient de Tchétchénie comme ils viennent de Géorgie, de Roumanie, de Mongolie, de Serbie, de Bosnie, d'Italie, de Russie, d'Arménie, de Djibouti, d'Éthiopie, de Somalie, d'Indonésie, d'Algérie, de Bulgarie, de Tunisie, d'Haïti, du Chili. Ici, ici, ici. Ici, 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 ici. Ils ont besoin d'apprendre la langue d'ici, de gens qui savent bâtir un pont de mots entre leurs deux pays. C'est un beau métier, le métier qu'il faut pour une intégration réussie dans la vie. Qu'ils puissent vivre leur vie, avoir des amis, des chéris, et même des ennuis avec leurs chéris, comme nous tous, ici. Ils viennent du Ghana, du Rwanda, 800 000 morts à la main en 6 mois. Du Nigeria, qui se souvient à peine de la guerre du Biafra, où l'on vit pour la première fois des enfants aux yeux plus grands que l'écran, crever derrière l'écran. D'Angola, dont la révolution fut trahie dès le premier matin de la révolution. Ils viennent de là-bas, où la vie, parfois, n'est pas là-bas une vie, la mort en bandoulière, l'exil pour cartouchière.
Yvon Lemaine, les habitants de Maurepas, ils sont souvent pas là par plaisir.
Enfin, c'est une joie et une souffrance qui fait quitter un état pour aller dans un autre état qui peut devenir une joie. Bon. La plupart des gens, en tous les cas, quittent leur pays parce qu'ils n'ont pas le choix, quoi. Voilà. Et certains fuient des histoires terrifiantes. J'ai rencontré des enfants de 10, 12 ans qui avaient déjà vécu 40 vies, quoi. Voilà. On sent qu'ils sont passés en enfer au moins 4 ou 5 fois, quoi. Pour venir peut-être au paradis. Enfin, au paradis. C'est une façon de parler, parce qu'ils sont venus ici pour que ce soit mieux. Et effectivement, c'est quand même en même temps, ils sont accueillis, c'est les loyers les moins chers de Bretagne, hein, à Maurepas, donc ils ont une espérance de quelque chose qui va les remettre comme l'eau arrose les plantes, donc voilà, ils vont être arrosés à nouveau, par une espérance.
Vous, Yvon Lemaine, pendant ces 3 mois, vous avez été un voisin idéal, en fait, un voisin silencieux.
Voilà, c'était ma qualité première, c'est ce que me disait une de mes voisines. Elle dit, vous êtes silencieux, elle m'a demandé. Moi, je suis très silencieux. Je regarde la télé le soir, comme tout le monde, et je fais attention à voir si ça ne dérange pas le voisin du dessus, quoi. Voilà.
Vous ne faites pas de bruit, mais vous ne l'aimez pas, surtout le bruit. Et là, vous avez dû vivre dans le bruit, vous avez dû écrire dans le bruit, et même contre le bruit.
Alors, quand j'ai proposer la résidence, je voulais habiter. Alors les gens souriaient un peu en disant mais on va pas lui dire vraiment parce que sinon je serais pas venu. J'aurais pu habiter à côté et puis venir travailler ici dans le quartier. Mais si je n'avais pas été au centre de la centrifugeuse qui fait du bruit, mon poème n'aurait eu aucune valeur. C'est parce que j'étais au cœur du problème de tous, parce que je crois qu'en disant ce que j'ai dit sur le bruit, tout le monde a dit c'est vrai. Donc en parlant du bruit, en y allant, c'était la seule condition de réussite de mon poème. Donc, sinon, ça aurait été un mensonge, quoi, ou un reportage comme ça, vite fait. Non, ce n'était pas vrai.
Et vous entendiez quoi comme bruit?
Alors, j'entendais... j'avais des voisins... je parle d'une femme à un moment donné. Je lui dis, mais combien elle pèse, hein? En plus, elle avait des talons qui me rentraient dans le cerveau. Puis il y avait au moins 10 ou 12 gosses, quoi, à peu près. Alors en plus, moi j'aime bien les gosses, alors un jour je m'énerve, je sors, je vais les manger. Puis je vois un petit qui passe dans l'escalier, qui me dit « Bonjour Yvon ». Ah bon, je pouvais pas lui couper la tête, quoi. Et alors elle faisait, je me dis « Qu'est-ce qu'ils font ?» Mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais ils font que vivre aussi, voilà, c'est tout. Donc vers 2h du matin, ça s'arrêtait, ça reprenait à 6. Et un jour, je vois la voisine du dessus que j'avais à ce moment-là, je pense pas que ce soit la même aujourd'hui, qui va, elle était toute en noir, elle avait 2 sacs poubelles noirs, et elle va jeter ses 2 sacs poubelles noirs dans la grande poubelle noire, quoi. et je dis qu'elle marchait à pas lents sur sa peine. Et donc, en trouvant la phrase pour la nommer, je l'ai protégée aussi de ma colère, quoi. Et après, j'ai dit, j'ai fait avec. Voilà. Donc moi, j'ai vécu cela, et après, j'ai rencontré des correspondants de nuit, quoi, qui veillent, si je peux dire, jusqu'à 1h du matin, pour voir d'où viennent les plaintes, et les plaintes viennent tout le temps du bruit, hein. C'est parce que, en plus, il y a 51% de gens qui vivent seuls ici. Et donc, quand on vit seul, forcément, tout nous agresse. À certains moments, c'est parce qu'on n'est pas très heureux. Et le bruit, une fois, une nuit, j'entendais des cris « au secours, au secours, au secours ». Une femme qui hurlait. Je me dis, genre, je sors, je mets mes chaussures au cas où il aurait fallu cogner. Et je cherche partout, de haut en bas, l'origine du bruit. Et c'était en fait en latéral. Et les flics sont venus, finalement, ils ont sorti un type qui était en train de taper sur sa femme, quoi. Voilà. Et le mot « au secours », c'est fort, hein. Et c'était en latéral, donc parce que là, à cause du béton, sans doute, les bruits circulent dans tous les sens, quoi. Et c'est jamais dans le bon sens. »51% de gens seuls, comme ce n'est pas possible, vivent, survivent sous la peau d'un tambour. Personne à qui parler du bruit qui les réveille la nuit, le jour, nuit et jour. Des bruits du dehors qui se mélangent à leur bruit du dedans, de leur tête. Déjà épuisés par les médicaments, les chagrins, les heures si pleines de secondes qui n'en finissent pas de ne pas finir. Cette double peine multipliée par deux. Chômage, pauvreté, solitude, maladie. Et dans n'importe quel ordre.
Karim, les mots du poème vous désignent comme gardien d'une tour. En vrai, vous êtes quoi, ici à Maurepas ?
Alors, je suis gardien, en fait, au niveau de la rue de la Marbaudée.
Le mot exact, c'est agent de proximité, aujourd'hui on dit.
Oui, tout à fait, agent de proximité. C'est pas l'ancien métier de gardien d'immeuble. C'est un métier un petit peu nouveau, voilà. Où est-ce qu'on aura, en fait, beaucoup plus de contacts avec les locataires. Je vous donne un exemple, un problème de voisinage, on fait de la médiation au premier niveau. On va, on regarde ce que c'est le problème, on essaie de régler les problèmes. Des problèmes qui nous sont signalés techniques ou autres, on se déplace, on regarde, et puis on transmet à l'agence. On a aussi des permanences, on a un téléphone d'astreinte, et donc on répond aux problématiques des locataires. On rassure les gens aussi par rapport aux troubles de voisinage. On les met en contact avec, effectivement, tout ce qui est correspondant de nuit et tout ça. Voilà.
Vous, Karim, vous vivez ici, à Maurepas ?
Oui, tout à fait. Ouais. Oui.
Est-ce qu'on y vit bien, à Maurepas, en vrai ?
Alors, moi, je ne vous cache pas que j'avais une appréhension sur Maurepas. Mais là, ça fait un an que je suis là. J'ai mes trois enfants. Il y a le parc de Maurepas au-dessus, qui est super génial. Il y a plein d'associations. Il y a plein d'aides. En fait, c'est un quartier multiculturel, un quartier vivant, quoi. Voilà. Un quartier où est-ce que même les locataires, en fait, s'impliquent, quoi, dans des démarches associatives ou autres. Voilà.
Est-ce que les gens se connaissent entre eux ?
Alors, là-dessus, non. C'est le problème, en fait. C'est que les gens ne communiquent pas assez entre eux. Déjà entre voisins, d'où la démarche, effectivement, d'essayer de mettre en place avec la mairie de quartier, d'aller voir les nouveaux habitants, les nouveaux locataires, de toquer à la porte du voisin. Nous aussi, quand on fait des visites de courtoisie, après l'entrée d'une personne dans son appartement, on lui dit effectivement, il a certaines obligations à faire, mais notamment d'aller vers son voisin, de discuter. Voilà. «
promet ça reste la mer. Les hommes, un chat, une masse, comme un assassin. Quand c'est pas ça, ça, pour la rue, faut que j'en place un sein. Mais c'est pas ça, ça.
Un studio de musique en plein cœur de Maurepa, Sofiane. C'est quoi, on est où ici en fait?
Ici on est au studio La Reine, donc dans le quartier de Maurepa, au pôle associatif de la Mare Baudet. Donc c'est un studio qu'on a ouvert en 2013. C'est une association et c'est en partenariat avec la ville de Rennes.
Il y avait quoi avant 2013 ici?
Ici il y avait un local à balai. C'était le local du concierge en fait. Donc il avait ses petits produits, ses petits balais, son petit aspirateur et voilà. Ça a changé hein, quand même.
Et celui qu'on vient d'écouter là, il est de Maurepa?
En fait, ça c'est un artiste de Paris qui s'appelle Zesso. C'est vraiment un artiste qui est reconnu au niveau du rap français, au niveau national. Donc on l'a invité hier pour une collaboration avec un artiste à nous.
Alors qu'est-ce qui vient de faire de la musique ici dans ce studio?
Ici, il y a tout le monde. Il y a tout âge, tout style, toute catégorie de personnes, amateurs, professionnels. Enfin, c'est vraiment ouvert à tout le monde. On en voit vraiment toutes les couleurs.
Devant la porte, il y avait plein de jeunes, en fait, des ados.
Ouais.
C'est eux qui viennent aussi faire un peu de musique avec
beaucoup,
vous?
Beaucoup, c'est vrai qu'on est, c'est beaucoup fréquenté par des jeunes. Il y a beaucoup de musique urbaine. Ouais, ce sont des adhérents du studio.
Bon, alors vous, est-ce que vous vivez ici à Maurepa?
Moi, je suis né à Maurepa, mais là, je suis parti quand même, ça fait quelques années. J'ai grandi un petit peu, j'ai changé un petit peu d'atmosphère. Mais je suis là quotidiennement, donc je suis bien imprégné du quartier.
Vous avez quitté quelle atmosphère pour quelle nouvelle atmosphère?
J'ai quitté les tours pour prendre un petit immeuble avec des arbres et des petites plantes à côté. Enfin voilà, j'ai changé un petit peu de décor.
Vous l'avez vu changer beaucoup ce quartier, vous avez quel âge?
Moi j'ai 32 ans. Pour moi ce qui aurait changé c'est plus que y a un peu plus de misère sociale quoi. On va dire qu'on ressent beaucoup les difficultés des habitants, on ressent beaucoup ces problèmes quand même sociaux. Quand on est vraiment là quotidiennement, on voit qu'il y a quand même beaucoup de difficultés. Mais malgré tout, ça reste quand même un quartier sympathique, puisque les gens, il y a beaucoup d'entraide aussi entre eux, il y a beaucoup de l'amour entre les gens, quoi. Mais ça m'attriste un peu de voir que quand même, il manque quelque chose ici au niveau du soutien social et de l'aide sociale au niveau des gens. C'est un petit peu laissé de côté, quoi.
Vous êtes là pour faire du lien, justement, entre les jeunes? Ça vous importe, ouais.
Bien sûr, on essaye. Nous, on estime qu'il y a un manque, justement, de lien entre les administrations, les structures un peu officielles et les habitants. En fait, il manque des intermédiaires pour, des fois, faire diffuser des informations ou des événements, ou des fois, il y a des projets qui sont en cours. En fait, les jeunes n'ont pas forcément toutes les informations. Après, soit parce qu'ils ne cherchent pas, ou soit aussi parce que l'information n'est pas facilement accessible.
Il y a des agents de proximité qui sont là physiquement, il y a la mairie est prêt.
Ouais.
Ben on a rencontré Karim par exemple, son rôle c'est agent
de
proximité, gardien.
Des animateurs, des éducateurs, des employés, vous voulez dire, qui travaillent dans le quartier. Oui, bien sûr, il y en a. Mais on peut toujours faire mieux, je pense.
Bon, est-ce que vous reviendrez vous installer à Maurepa un jour?
Pourquoi pas.
En vrai?
En vrai? Franchement, je vais pas vous mentir, dans une maison, ouais. Mais c'est bon, les immeubles, on a donné, chacun son tour.
Yvon Le Maine, est-ce que vous diriez que les rumeurs de Babel, c'est un poème engagé, c'est un manifeste?
Alors là... Non, parce que j'ai été militant longtemps. Je suis engagé de toute façon dans ma vie. Dès que je me lève, je m'engage dans la journée qui vient et je vais vers. Donc voilà, à ce niveau-là, oui, bien sûr, mais pas au sens. Il n'y a pas un préalable. J'ai pas dit en arrivant, je vais écrire un poème pour parler du peuple et le monter en épingle pour piquer les méchants. Non, mais c'est évident, quoi. Et c'est comme un chant quand même, on peut dire ça, c'est un chant avec une histoire. Et quelqu'un l'a lu en disant c'est comme un roman qui se lirait de haut en bas, au lieu de lire de gauche à droite. Mais j'ai pas eu une intention, j'ai eu une joie. Je dis, ici, il y a de la vie, des vies. C'est le monde entier qui vit ici, donc il faut être très très vigilant sur ce qui se passe ici. Et j'ai entendu ici à la fois des drames, hein, Et les pires seraient ceux qui ne disent rien, même, hein, à la limite, ceux qui le gardent tout pour eux. Et puis, j'ai entendu aussi de la joie. Et compte tenu des conditions de vie difficiles pour les gens, je trouve qu'ils se comportent plutôt bien. Ils se tiennent plutôt bien à la table du monde, quoi. Donc, je suis ressorti d'ici gonflé à bloc. Alors, je ne veux pas dire que je veux vivre ici. S'il n'y avait pas le problème du bruit, je pourrais vivre ici. Hein. Mais je trouve qu'il y a ici quelque chose à écouter, quoi.
Qui doit les écouter ? À qui est-ce que vous vous adressez quand vous écrivez ? S'il vous plaît, faites quelque chose pour eux, pour que ceux de Maurepas qui ne dorment pas, dorment bien au moins une fois.
Alors, quand j'ai donné le spectacle donc à Maurepas, j'étais accompagné par des musiciens du conservatoire, par des amis chanteurs, par des enfants, la mère est venue.
La mère de Rennes.
La mère de Rennes est venue de façon très, très discrète. Elle était assise parmi les gens et elle est venue à la fin et elle a dit « On vous a entendu. » On vous a entendu.
Chantal Parent, c'est vous que Yvon Lemaine appelle la mère aubergiste de Maurepas. Quel est votre rôle ici ?
Alors, j'ai eu plusieurs rôles puisque je suis sur le quartier depuis 1978. J'ai d'abord été animatrice éducatrice à la maison de quartier de Maurepas. Et en 2005, je suis arrivée à la ville de Rennes sur un poste qui s'appelle un grand titre, chargé de mission politique de la ville. Donc, dans une direction de quartier, pour être au plus près des habitants au niveau des collectivités territoriales. Parce que ce qui te semble important, c'est que les habitants ne soient pas laissés pour compte. Et je pense que les directions de quartier, avec toutes les associations de quartier aussi, permettent cette proximité, cette écoute au niveau des habitants.
Il est écrit de vous, dans les rumeurs de Babel, que ce quartier, vous l'aimez presque violemment.
Alors, violemment, enfin passionnément, je vais dire. Parce que, enfin, un quartier, ce sont surtout des gens. Enfin, c'est de l'urbanisme, mais c'est aussi des gens dans des tours, dans des bars, dans des. Et c'est une richesse incroyable. Bon, je parlais souvent à Yvon d'une façon assez enthousiaste de ce quartier, et Yvon de dire mais qu'est-ce qui s'y passe ? Et à peu près, enfin, tous les deux, on s'est dit que c'était bien quand même qu'ils puissent venir par rapport. Il y a beaucoup d'études sociologiques aussi. Sur le quartier ou sur tous ces quartiers. Et je pense que la poésie, ça pouvait apporter quelque chose, un autre regard, une autre écoute. Et voilà, comme ça s'est fait.
Donc pour mettre des visages, mettre des mots et des histoires sur les études sociologiques qui disent qu'à Maurepas, 10% des habitants vivent avec 67 euros par mois, 50% avec 931 euros par mois. Il fallait mettre de l'humain derrière ces chiffres.
C'est pas n'importe quel, je pense que c'est pas n'importe quel écrivain qui peut venir aussi en résidence. Il faut que ça soit quelqu'un qui soit très à l'écoute, puisque je me suis baladée avec lui sur le quartier. Je vois que souvent, moi, j'interromps les gens quand ils parlent. Et lui, il avait cette faculté d'aller d'écouter les gens jusqu'au bout de leurs phrases. Et j'ai bien vu que les gens lui disaient des choses qui étaient assez profondes, parce qu'ils avaient l'impression d'être écoutés. Mais je vois bien que le poème d'Yvon a été entendu peut-être plus que les paroles des habitants. Moi, je sais qu'il y a des élus de la ville de Rennes qui m'ont dit, entre autres au niveau de la santé, je crois que ça fait bouger, ça fait bouger des choses. Au niveau de la santé, on sait que le problème de bruit est un problème important. Après, ça joue, moi j'avais discuté avec des médecins sur le quartier, où les médecins me disaient, on est obligé de donner des antidépresseurs à des gens qui, au départ, vont très bien. Mais le fait d'entendre son voisin qui ne va pas bien, on ne va pas bien soi-même parce qu'on manque de sommeil. Après, ce qui est intéressant aussi, ça fait bouger les lignes. Il y a des sociologues qui viennent toujours faire des études sur le quartier. Mais dans le cahier des charges, ça a été mis qu'il fallait qu'ils dorment aussi sur le quartier parce qu'on connaît le quartier souvent de 9h à 18h. Il n'y a jamais personne, à part Yvon Lemaine, qui est venu dormir volontairement sur le quartier. Aucun professionnel du quartier n'avait fait cette démarche. Et ça change tout. Enfin,
vous y vivez, vous, personnellement ?
Non, pas du tout. Et j'ai été étonnée entre... j'ai pu dormir dans le quartier. Et autant, je voyais des fois des rapports qui me disaient qu'il y a du bruit ou... entre lire les rapports et le vivre, arriver au boulot le matin, d'avoir les cernes, enfin de ne pas avoir dormi, Et je me disais, moi, le soir, je peux rentrer ailleurs pour dormir. Ça change tout. De vivre les choses, c'est complètement différent.
Est-ce que vous avez l'impression, Yvon Lemaine, ou est-ce que c'était votre objectif, ce qui vous animait, d'avoir donné accès à la parole à des gens qui ne l'ont jamais ?
Alors, honnêtement, quand je suis arrivé, donc j'étais dans l'état du petit chien qui s'est perdu, j'avais pas un plan. Mais de toute façon, quand moi je voyage, j'ai cette faculté. Si j'arrive à m'oublier, à sortir de mes propres problèmes, j'ai les oreilles tendues, quoi, le cœur tendu, la main tendue. J'ai écrit dans un autre livre, Une île en terre, où je dis « Va à l'étranger comme chez ton ami, et chez ton ami comme à l'étranger ». J'ai fait ce pari-là, quoi, voilà.
D'ailleurs, est-ce que vous étiez des leurs à cet instant, ou est-ce que vous avez toujours été un étranger, un poète en résidence ? Est-ce que vous avez fini par être considéré par eux comme un des leurs, et est-ce que vous, vous vous êtes senti appartenir à cet ensemble-là?
D'abord, moi, je ne suis pas un homme riche, et donc je fais partie des leurs tout simplement parce que je suis un être humain, voilà. Et ensuite, on a créé un spectacle suite à la résidence, et il y avait 200-250 personnes. Et les gens du quartier étaient là. Et ils ont dit, oui, c'est nous, vous avez parlé de nous, quoi. Donc je crois que je suis des leurs, mais de passage. Il y a un poète que j'aimais beaucoup, Jean Malrieux, qui dit voilà, l'étranger est venu chez nous et il a raconté notre vie. Voilà. Parce que l'étranger, c'est très important dans une communauté. C'est un étranger qui fait une communauté, sinon c'est un clan. Voilà. Quand j'étais petit, à Noël, par exemple, ma mère disait toujours, il faut inviter quelqu'un d'autre pour éviter qu'on se balance les assiettes dans la figure. Ce qui n'était pas vrai, c'est une façon de parler. Mais l'étranger sauve aussi une communauté. Et donc, il n'y a aucune raison qu'à force de tendre l'oreille, j'ai fait partie un peu d'eux et de leur vie. Je suis revenu 8 ou 9 fois depuis, avec une certaine nostalgie. Parce que j'ai été heureux dans cette résidence, absolument.
Vous avez fait ici à Maurepa, Yvon Lemaine, une très belle rencontre d'un homme qui est un peu vous, un peu l'autre. C'est Pascal.
Ah oui, alors Pascal, oui. Oui, magnifique, il m'a bouleversé. La première fois que je l'ai vu, il a dit, il était avec Chantal, et il dit qu'il écrivait des poèmes. Mais il ne savait pas qui j'étais, parce que je n'ai pas dit que j'étais un écrivain quand je suis arrivé, j'étais à peine un épagneul breton. Et je rencontre Pascal, et il dit c'est un garçon très très émouvant, vraiment, qui a été 22 ans en prison, donc...
N'en dites pas trop, on va le rencontrer.
Je
ne
dirai plus rien. Mais il me dit qu'il écrivait des poèmes. Et il me dit, si jamais vous avez envie, moi je peux vous aider pour des poèmes. Et moi j'ai dit oui, bien sûr. Et en plus c'est vrai, de toute façon tout le monde peut nous apporter son petit sac de billes.
Moi l'illettré, j'ai mis les mots sur un cahier et dans ma tête pour crier ma honte et ma colère. Et là, des émotions se sont mises partout dans mes oreilles. Que de nouveaux mots. Des mots de Saint-Denis. Et là, j'ai mis des mots dans tous les sens. J'ai pas de destin comme on pensait, mais je m'accroche à mes mots. J'ai mis des mots de mes 10 ans. Et là, pour la première fois, j'ai oublié. Et là, j'ai retrouvé l'inspiration de mon cœur. Et là, j'ai mis des mots de ma colère pour vivre avec ces mots qui résonnent en moi. Pascal.
Voilà. C'était en quelle année, Pascal, que vous avez écrit ce premier poème ?
En vérité, au début, c'était pas un poème. Au début, j'essayais d'écrire des mots pour les comprendre. Alors, j'écrivais à ma façon. Et quand j'ai commencé à prendre des cours de français, quoi, j'ai repris certains cahiers, quoi. Parce que j'avais écrit ce poème, quoi, qu'on dit que c'est un poème, hein, et corrigé. pour que je puisse le lire correctement, quoi. Voilà.
À quel âge est-ce que vous avez eu envie d'apprendre à lire et écrire ce que vous n'aviez jamais fait jusque-là? Et le titre de votre poème, c'est « Moi, l'illettré ».
Je pense que j'ai voulu toujours apprendre à lire et écrire, quoi. Mais on m'a tellement rejeté et puis insulté et humilié que j'ai abaissé les bras. J'ai dit, voilà, les gens disent que je suis un boulin, je suis un bon à rien, que je ne sais pas ce que je fais sur Terre. Et j'ai abaissé les bras. C'était toujours ma faute, en vérité, quoi. On n'avait pas vu qu'il y avait un problème de son, on ne comprenait pas. Quand je disais, je ne comprends pas le mot, et on m'en rejetait, quoi. Et alors, à force, on abaisse les bras. Je pense que j'avais abaissé les bras. Mais abandonné, non, parce que la preuve, quand je suis ressorti, la première chose que j'ai fait en m'installant ici, c'est trouver un endroit pour apprendre à lire et écrire.
Quand vous êtes sorti d'où ?
De prison. Alors c'était un travail. Alors, au début, je n'avais pas de cours. Alors, j'ai trouvé une bénévole que je payais 10 euros de l'heure. Tu vois, commencer avec elle, quoi. Et l'orthophiliste que j'ai rencontré avec.
10 euros de l'heure, ça représente une grosse somme pour vous ?
Oui, c'est énorme, hein. Parce que quand je suis sorti, moi, je touchais 400 euros par mois et je payais de loyer 340. Il me restait 60 euros pour vivre. Alors, c'était ouais, compliqué, mais après, bon, il y a des gens qui ont été compréhensibles et justes avec moi, quoi. Au début, ça a été dur de me faire accepter parce que, comme je ne savais pas lire et écrire, les gens, je les agressais quand je parlais. Et tout d'un coup, quand ils ont pu en savoir plus, m'écouter, quoi. Là, c'est devenu, de ma part, plus raisonnable, quoi. Parce qu'il prenait le temps de m'expliquer les mots. Ce qui s'est passé avec Yvon, c'est qu'il a pris le temps. Il a vécu dans un logement comme nous pendant un temps. Et il a ressenti, avec ses mots, il a senti que nous, on ressentait. Voilà, mais c'est pas beaucoup de gens qui font comme Yvon, quoi. Qui prennent le temps de passer 4 mois dans un appartement, de traîner dans les rues, voir ce qui se passe.
Après le départ d'Yvon, Yvon Le Maine, comment vous comptez maintenir cet intérêt-là que peuvent porter les gens à vos paroles ?
Mais faut pas s'arrêter là parce que c'est rien n'est gagné dans la vie. Hein. Vous savez, faut se battre dans la vie pour avoir quelque chose, quoi. On n'a rien sans rien. Pour recevoir, faut savoir donner. Si tu veux recevoir, apprends à donner, quoi. Un sourire. Quand tu veux te rendre compte, voilà un sourire, qu'est-ce que c'est ? C'est suffisant. Et parfois, c'est mieux qu'un bonjour. Voilà. C'est pour ça que je suis devenu bénévole.
Vous êtes bénévole alors que vous avez un très petit revenu, vous nous disiez tout à l'heure.
Oui. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Faut arrêter de pleurer, quoi. Parce qu'on pleure, c'est vrai. Hein. On est toujours en dire ouais, le gouvernement fait rien. On va au centre social, on va voir les assistants sociaux, ils ne nous donnent pas d'aide et tout. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, c'est pas en se levant à 11h du matin, temps de déjeuner, temps de matinée, à 2h, bon, je vais chercher du travail, quoi. Hein, faut être conscient de nos erreurs, hein, aussi. Hein. Et faut arrêter de rejeter la balle aux autres, quoi. Moi, j'ai fait des erreurs, c'est vrai, je le reconnais. J'ai eu des actes durs. Mais voilà, c'est du passé. Maintenant, je pense que je suis comme tout le monde, j'ai droit à une deuxième chance. Voilà. Je pense que j'ai compris la leçon. Voilà.
Vous, Pascal, vous avez connu la violence, forcément, puisque vous avez fait de la prison. Est-ce que vous diriez que vous retrouvez parfois une forme de violence ? Forcément pas la même. Mais à Maurepas, on parle souvent de violence quand on parle de quartier populaire.
La violence, c'est pas de la violence. Moi, je pense que c'est de la colère. C'est différent, la colère, parce que les gens sont au chômage. Voilà, parce que il y a des choses qui ont été promises dans le passé, qui n'ont pas été respectées. Et puis mettre des gens dans des tours comme ça, qu'on dit des logements sociaux. Ici, c'est pas de dominance qu'il y a, c'est de la colère.
Sur quoi portera votre prochain poème ? Vous allez parler
peut-être
de quoi ?
Sur vous, vous les journalistes. Qu'est-ce que vous nous apportez ? Qu'est-ce que vous dites ? Est-ce que c'est du mensonge, la vérité ? Est-ce que vous coupez les mots que je dis ? Est-ce que vous êtes sincère devant votre sourire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous savez, je ne pense pas qu'on choisit les poèmes qu'on écrit. On écrit avec notre cœur. C'est la façon de parler des gens. Moi, du coup, je parle avec mon cœur. L'écriture devient pareil qu'avec son cœur. prochain, peut-être, ça sera sur Yvon pour le remercier. On peut dire merci à Chantal quand elle partira en retraite. Je ne sais pas. Voilà. On ne peut pas dire. Merci à vous.
Est-ce qu'on peut lire un dernier extrait de votre poème Les rumeurs de Babel, page 93.
Des miracles à Morpa, pourquoi pas? Comme je l'espère pour tous ces enfants, enfants et grands en même temps, trop grands pour leur petit temps passé dans le quartier, dont la vie a commencé peut-être dans les arches perdues de la Méditerranée. Des miracles à Morpa, pourquoi pas? À suivre pas à pas, comme Pascal a suivi le sens de son prénom, la Pâque, le passage pour lui vers une autre vie, dans ce quartier de Morpa où il est chez lui comme on est chez soi avec ses amis.
Qu'est-ce qu'un poème peut dire de plus, Yvon Lemaine, qu'une simple conversation, une première conversation parfois pour des gens qui se rencontrent pour la première fois? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans un poème que la conversation ne dit pas?
Je crois qu'un poème, à la différence d'une conversation, c'est un état de langue différent, un peu plus chauffé à blanc, quoi. Hein. Parce que on peut comprendre que les gens aient du mal à dire des choses, hein, s'ils se sentent surveillés, quoi, de toute façon. Donc, le poème, c'est prend en compte des forces inconscientes, des forces terrestres, célestes, enfin tout ce qu'on veut, et équilibre les contradictions, les paradoxes. Donc, un poème peut dire des choses vraies, au sens existentiel presque, sans accuser. Et je vais citer deux vers qui sont extrêmement simples d'un poète que j'ai adoré, qui s'appelait Jean Malrieux. Je suis allé le voir, j'ai traversé la France pour à cause de ces deux vers. Le premier, c'est « Le bruit court qu'on peut être heureux ». Bon. Deuxième, « Si ta vie s'endort, risque-la ». Avec ces deux propositions-là, on peut vivre. Voilà. Et dans ce qu'on a fait, là, de tous les gens qu'on a entendus, on a entendu « Le bruit court qu'on peut être heureux ». Pas qu'on est heureux, hein, qu'on peut être heureux. Et si ta vie s'endort, est-ce que là, si ça va pas, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Voilà. Moi, je pense qu'un poète peut mentir, pas un poème. Un poète peut mentir comme tout le monde, quoi. Hein. Mais un poème ne peut pas parce que, enfin, moi, c'est ce que je crois, hein, parce qu'il va tout droit, disons.
Merci, Yvon Lemaine.
Ah, merci.
Les rumeurs de Babel sont parues aux éditions Dialogue avec des illustrations d'Emmanuel Lepage. Nous mettons les références en ligne sur notre site internet, sur la page de Sur la route, sur le site de France Culture. Les rumeurs de Babel qui se propagent et qui deviendront sans doute un spectacle d'ici quelques mois, voire quelques années. Je rappelle également les références de deux de vos derniers ouvrages, Une île en terre, paru aux éditions Bruno Doucet, et Tirer la langue, aux éditions La Passe du Vent. Notre petite entreprise poursuit sa route. Yvon Croisy au volant, copilote Sophie Bobert. Merci encore à Chantal Parent de Morpa pour sa disponibilité. La semaine prochaine, nous serons dans l'Allier, dans le département de l'Allier, en Auvergne, avec des compagnies théâtrales très inquiètes de ce que le Conseil général vient de voter, la suppression de toutes les subventions qu'il leur accordait jusque-là. Il est bientôt 19h sur France Culture, l'heure de retrouver Marie-Hélène Freissé pour Tout un monde.